En quête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Tout récemment, figurez-vous que la ville de Langon, en Gironde, a mis en place un dispositif argent de poche qui permet aux adolescents de toute la ville de gagner 60 euros, mais attention, en échange de missions, de quelques missions réalisées, par exemple l'été, dans la commune. Alors voilà, donner de l'argent pour récompenser d'un service rendu ou pour une bonne note, en échange d'une bonne note rapportée à la maison. Pour ou contre, en gros, faut-il donner de l'argent de poche à ses enfants? Je vous propose de tenter d'y répondre avec mes quatre invités. Attention, il y a du monde autour de la table dans cette émission Quête de sens. Et j'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Marie-Audrey Boisard. Bonjour Marie-Audrey.
Bonjour Marie-Audrey.
Ravie de vous recevoir, parlez bien dans votre micro. Vous êtes coach parental, thérapeute, vous animez le podcast De la femme à la mère, vous animez un cercle de femmes. J'ai tout dit Marie-Audrey?
Exactement.
En tout cas, merci d'être là. Attention, parlez bien dans votre micro. Je sens que je vais me battre contre ça pendant toute l'émission. Nous sommes également en compagnie de Valérie Lyon. Bonjour Valérie. Valérie.
Bonjour Marie-Ange.
Ravie de vous recevoir.
Merci.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef à Vive Média avec un S. Pourquoi un S à Vive Média?
Eh bien parce
comme
que...
le S de Picsou.
C'est le S de toutes les femmes parce que Vive Média, c'est le média du groupe Bayard au service de l'indépendance économique et financière des femmes. Et parce que les femmes sont des forces vives de la société et qu'il faut les prendre en compte et leur donner toute leur place.
Bravo. Osons l'oseille, un podcast qui est dédié à qui exactement?
Osons l'oseille, c'est le premier podcast de Vive Média qu'on a lancé en 2022 et qui s'adresse aux femmes mais aussi aux hommes pour décomplexer son rapport à l'argent, parce que l'argent reste un sujet particulièrement tabou en France. Et donc, Osons l'oseille aide à décomplexer son rapport à l'argent.
Moi, je pensais que c'était que chez les cathos que l'argent était une question tabou, mais en fait, c'est carrément en France encore
c'est
aujourd'hui.
C'est partout.
D'accord.
Dans toute la société.
Voyez, je serais moins méchante avec les cathos. Les pauvres auditeurs, je tape sur le cathos tous les jours, ou presque. En tout cas, on peut mentionner aussi le baromètre que vous publiez chaque année, Valérie, au groupe Vive, sur les femmes et l'argent. On peut le mentionner aussi en début d'émission, on n'ira peut-être pas tout le temps, mais voilà, au moins c'est dit.
Tout à fait, un baromètre annuel, quatrième édition publiée cette année début mars, sur les femmes, les hommes et l'argent, ce qui permet de comparer à la fois, je dirais, les connaissances, les pratiques et les comportements par rapport à l'argent. Et puis on s'est intéressé aussi, mais on en parlera tout à l'heure, à l'argent de poche des ados.
Et voilà, dans le magazine Julie, également édité par le groupe Bayard, qui s'adresse aux adolescentes, un sondage que vous proposez autour de l'argent de poche, justement, pour ou contre, c'est ça un peu la question qui a été posée
aux ados?
Ah non,
c'était, la question, c'était vraiment combien on donne aux ados, à partir de quel âge, que font-ils de leur argent de poche, est-ce que l'argent est un sujet qu'on discute avec eux ou pas en famille? C'était toutes ces questions-là.
C'est l'émission d'aujourd'hui, quoi. On va s'arrêter là pour la présentation. Merci en tout cas d'être là. Valérie Lyon, nous sommes également en compagnie d'Esther. Bonjour Esther Ribault, le grand retour d'Esther.
Oui, tout à fait.
Ça faisait longtemps.
C'est
que vous travaillez
longtemps.
À vos heures perdues quand
même. Complètement.
Hein, si vous avez des heures perdues d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, vous êtes la présidente d'un club de femmes dirigeantes, leadership et résilience.
Exact.
Leadership et la résilience. Vous êtes coach de dirigeants également. Oui. Et puis maman de deux filles.
Oui,
coach.
Voilà, ça m'occupe déjà pas mal. Ouais. Exactement. Donc, j'accompagne aussi les entreprises dans leur transformation culturelle.
Ouais.
Donc, pour faire de l'authenticité et de la résilience un vrai moteur d'engagement.
Bravo. En tout cas, femme que vous êtes, femme forte dans cette émission.
Et vive.
Attention, et vive. Hein. Attention. Nous sommes enfin, j'en ai oublié une ou pas encore, ou il ne me reste plus. Bah oui, mon téléphone. Celle qui est en ligne avec nous de la Suisse, en direct de Suisse. Cécile, bonjour Cécile Bicari.
Bonjour Marie-Ange.
Ravie de vous recevoir, d'être en ligne avec vous. En tout cas, vous qui êtes formatrice, conseillère, entrepreneuse, investisseuse. Et donc, vous avez publié cet ouvrage, C'est ton argent, que vas-tu en faire? Voilà, qui est paru aux éditions Helvétique. Merci en tout cas, Cécile Bicari, d'être en ligne avec nous. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on part du principe, mesdames, qu'on part du principe qu'il faut en donner un jour ou l'autre de l'argent de poche. Mais moi, je vous pose la question, est-ce qu'il faut en donner? En fait, s'il fallait répondre à la question, Cécile Bicari, est-ce qu'on a le droit de poser la question en 2025? Faut-il donner? Est-ce qu'on a le droit de ne pas en donner d'argent de poche aux enfants, au fond?
Oui, absolument. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Et puis, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de tout ça, aussi notamment à savoir à partir de quel âge. Moi, je dirais qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est que, un, quand on pense à l'âge à laquelle ça peut être approprié, ça dépend un petit peu de l'intérêt des enfants pour le sujet aussi. On peut être un peu guidé par leur questionnement, leur maturité, etc. Et puis, la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que l'argent de poche, en fin de compte, c'est un outil pour apprendre à gérer l'argent. Donc, c'est un outil d'éducation. Mais c'est quelque chose qu'on doit voir un petit peu en tant que tel, en tant qu'outil d'apprentissage. Et pas forcément quelque chose qui doit être une contrepartie pour des services rendus à la maison pour participer à la vie de famille quotidienne, parce que ça, j'allais dire, quelque part, c'est normal en grandissant de faire de plus en plus de choses à la maison, parce qu'on grandit, on prend ses responsabilités et on contribue à la partie du travail non rémunéré auquel les familles font face et les parents aussi. Donc je pense que l'argent de poche, c'est quelque chose qui vient à part et qui vient plus tard et qui doit être bien accompagné en termes d'éducation.
Alors Valérie Lyon, qui avait étudié la question, pour ou contre, voilà, et à quel âge surtout ?
Alors moi je dirais tout de suite oui, alors c'est bien de se poser la question, mais oui, il faut donner de l'argent de poche
d'accord,
aux enfants.
Ouais.
Ah oui, d'emblée, parce que l'argent est une réalité dans notre société, et donc l'argent de poche, comme l'a très bien dit Cécile, c'est un moyen d'éducation à l'argent, et si on n'éduque pas les enfants à l'argent, on en fait des adultes démunis, une fois qu'ils rentrent dans la vie active, notamment, face à l'argent, qui est quand même un moyen d'émancipation aujourd'hui dans notre société, un moyen d'indépendance économique et financière, c'est l'argent. Donc, il faut donner de l'argent aux enfants. Après, il faut se poser la question combien, à partir de quel âge, avec ou sans contrepartie. Tout ça, ce sont des questions tout à fait légitimes. Mais ne pas en donner, c'est entretenir le tabou sur l'argent, qui persiste très fortement dans notre société française, et un tabou qui pénalise tous ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir une éducation. Et il faut dire que si on ne parle pas d'argent en famille, sachez qu'on n'en parle pas non plus à l'école. Donc où va-t-on en parler ? Et on va en parler la première fois quand on va arriver en entreprise, et là on ne sera pas du tout armé. Aujourd'hui, à l'école, le seul moment où on en parle vraiment, c'est en quatrième grâce au passeport EDUCFI, 2 heures d'éducation économique et financière. Et puis après, on n'en reparle plus avant la seconde, où tous les lycéens ont un cours de sciences économiques et sociales. Et puis s'ils ne le choisissent pas en spécialité, bah, c'est terminé.
Marie-Audrey, même question, même réponse.
Alors, non, pas du tout.
Ça m'intéresse. Génial, j'adore.
Pas du tout. Alors, il y a déjà le « il faut », cette injonction qui me dépasse. Je veux dire, lâchons les baskets un peu aux parents. Et le « il faut », c'est quelle appétence on a aussi et quelle notion on a face à l'argent. Est-ce qu'il faut oui et non, dans quel cas, dans quelles conditions, voilà, c'est un outil pédagogique, il faut en parler librement, comme tout sujet, pour éviter le tabou. Mais est-ce que dès que je fais quelque chose pour la famille, j'ai de l'argent ? Bah voilà, il y a les limites
Au
site.
Ouais. Esther, premier petit tour de table, comme ça, pour entendre un petit peu.
C'est assez intéressant de les entendre, en fait, parler d'argent. Ce qui me saute là, comme ça, aux yeux, c'est... tu parlais de tabou, en fait, c'est est-ce qu'il faut donner de l'argent ? En fait, ça fait... est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, à ne pas le faire ? En fait, la vraie question, au final, c'est en quoi c'est important ? En quoi c'est important de donner de l'argent ? Et quand on donne de l'argent, finalement, qu'est-ce qu'on veut transmettre en réalité ? Et du coup, on déplace le sujet non pas sur la ressource, mais sur la valeur.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, finalement ? Il y a différents types de ressources, en fait, qui nous sont données dans la vie. L'argent fait partie, comme tu disais, de la réalité. Mais finalement, en donnant de l'argent, est-ce qu'on veut apprendre l'autonomie ? Est-ce qu'on veut lui apprendre les responsabilités ? L'économie aussi, en fait. La liberté ?
La liberté.
On a envie, en fait,
c'est
que
pas
notre
un cadeau,
enfant,
c'est de l'argent.
Voilà. Et pour moi, ça pose la question de l'identification, en fait, à cet argent. Qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas ? Est-ce qu'on peut continuer quand même à s'aimer ? Enfin, je ne sais pas.
En fait, Valérie, c'est une bonne question. Hein,
non, mais c'est une très bonne question. C'est clair qu'à travers l'argent, on transmet des valeurs. Mais c'est ça qui est intéressant aussi à travers l'argent et à travers l'argent de poche. C'est-à-dire qu'on va discuter avec l'enfant, on va lui dire pourquoi on lui en donne maintenant ? combien on lui en donne, à quoi ça peut lui servir. Ça lui permet aussi de découvrir progressivement le prix des choses, mais ça, derrière le prix des choses, la valeur des choses, de se rendre compte, par exemple, qu'une paire de baskets à 150 euros, c'est peut-être très cher payé, surtout quand elle est fabriquée par des enfants à l'autre bout du monde. Voilà, donc ça permet d'introduire aussi tous ces sujets de discussion. Ça permet de parler même du salaire des parents, qui est un sujet très tabou dans les familles. C'est-à-dire, dans les familles, nous, notre sondage a montré qu'on parle assez facilement du prix des choses et des dépenses, mais on ne parle pas des salaires. Donc, en fait, on ne parle pas d'où vient l'argent. C'est quand même important de savoir d'où vient l'argent avant de le dépenser.
Ouais. Donc, moi, je dis à ma fille, souvent, il faut beaucoup... Parce que parfois, elle me dit, maman, je voudrais une voiture comme ça. Alors, elle me montre du doigt une Jaguar verte, magnifique. Écoute, ça, oui, une MG. Bref, très bien. Mais, et du coup, maintenant, alors, je ne sais pas si j'ai malheureusement eu tort de dire ça un jour. Du coup, elle leur avait dit, il faut beaucoup travailler.
Mais c'est bien, parce que l'argent...
C'est bon, Valérie.
Pour beaucoup d'enfants, l'argent vient du distributeur.
Ouais. C'est vrai.
Mais... Du téléphone, parce que maintenant,
et maintenant,
non, parce que c'est vrai ce que vous dites, hein. Valérie, hein, je suis d'accord. Ça vient de la machine. Hein.
Ça vient de la machine, mais non, l'argent vient pas de la machine, en fait. Ouais. L'argent vient du travail, et l'argent vient de l'effort. Alors, on reviendra peut-être aussi sur la question des contreparties, des services, etc. Mais je trouve qu'il y a une notion très intéressante par rapport à la contrepartie, c'est la notion d'effort. C'est-à-dire, effectivement, je te donne de l'argent parce que tu as fait un effort,
d'accord,
et tu as fait quelque chose qui ne t'était peut-être pas naturel et qui n'était pas que du plaisir.
D'accord. Ouais, il faut être très nuancé et très précis. Cécile Vicari, vous positionnez comment par rapport à ces premiers éléments de réponse, si je puis dire?
Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment sur le fait qu'en effet, c'est très nuancé. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut bien séparer les concepts. Et l'apprentissage de l'argent, ce n'est pas juste au moment où on commence à en donner, justement. Ça peut venir bien en amont, à travers des discussions. Pour moi, justement, l'idée d'avoir écrit un livre pour des enfants à partir de 7 ans, c'est parce que les questionnements et la notion de l'argent, en fait, commencent à se former autour de 7 ans. C'est en fait croyance. Si on ne discute pas de manière assez neutre, structurée du sujet, en fait, on hérite juste des croyances de nos familles, de nos entourages, sans vraiment... savoir comment naviguer tout ça. Et comme vous disiez très justement, à l'école, ça vient beaucoup plus tard.
D'accord.
Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, il faut séparer, dans un discours un peu plus nuancé, d'où vient l'argent et pourquoi on en a besoin, comment on le gagne. Et en effet, le travail qui nous permet d'obtenir un peu de l'argent de poche, ça peut être une action supplémentaire qui va être rémunérée parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on fait en plus, de peut-être ce qu'on fait au jour le jour, qui fait partie de la vie de famille, on va dire.
Alors, mesdames, il y avait un souvenir dans mon enfance, je ne sais pas si vous êtes nées à peu près dans les années 80, enfin, dans ces années-là, en tout cas. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, dans la cour de récréation, le premier rapport que j'ai eu à la vie des choses, c'était les trocs, vous vous rappelez? On échangeait des images Panini contre trois billes, etc. La grosse bille contre la trois petites, enfin... Voilà, vous voyez, c'était... Alors, je ne sais pas si ça s'est perdu, Marie-Audrey Boisard, mais je trouvais ça plutôt frais et intéressant. Mais est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là dans un premier temps? Et puis, à quel âge, on commence à donner de l'argent de poche? C'est un peu ma double question
c'est
que
la
je vais
double
vous poser.
Question. Alors, le troc, je ne sais pas comment ça se passe à l'école en primaire, puisque je n'ai pas de telle problématique au cabinet. Mais pour répondre à ta deuxième question, la notion de l'argent se fait bien avant les 6 ans pour moi, puisque à partir du moment où on va à la boulangerie, eh bien, moi, je me force à payer avec des sous, de lui donner à mon fils qui a 4 ans.
Ah.
Et puis qui calcule, est-ce qu'on m'a rendu des pièces? Et des pièces un peu rouge, marron, là. Et puis, quand il y a des pièces, c'est or. Alors là, il est tout content quand il a des pièces en or. C'est vachement grand. Plus il y a la taille. Plus il y a la taille, elle est grosse. Plus il croit que c'est important. Mais bon, pourquoi pas. Puis il commence à lire les chiffres. Donc, il commence à voir, est-ce que c'est 1, c'est 2 euros.
Ouais.
En fait, c'est déjà d'avoir cette manipulation entre les mains. Parce que ça devient très virtuel, l'argent, de plus
c'est
en
vrai.
Plus.
C'est vrai.
Et il faut refaire aussi circuler l'argent parce que sinon,
mal barré apparemment c'est pas le chemin que prend le
non mais on ne sait pas si on éduque des nouvelles générations à avoir de l'argent un peu entre les mains c'est quand même déjà important
concret. Elle est d'accord Valérie Lyon?
Je suis complètement d'accord, il faut absolument avoir un rapport physique à l'argent pour les petits, pour qu'ils comprennent.
Première étape.
Étape. Et c'est vrai que l'argent devient de plus en plus virtuel dans notre société. On a parlé maintenant des paiements par téléphone. Et ça n'aide pas les enfants à comprendre effectivement en quoi l'argent est une monnaie d'échange. Parce que c'est ça, en fait. Au départ, c'était le troc. Et puis, au bout d'un moment, vous ne vouliez pas forcément échanger ce gobelet en plastique contre ce téléphone par exemple. On a d'abord inventé les lettres de change, la monnaie, puis les lettres de change, puis les billets, etc. Donc c'est important de revenir à cette réalité physique, alors à l'histoire, comment l'argent a été pensé, effectivement. C'est un médium, l'argent, en fait. Hein.
On peut trouver ça dans le livre de Cécile Vicary. Hein. Merci Cécile. Il y a toute une petite pédagogie à la fin, dans la deuxième partie de l'ouvrage. Donc l'histoire de la monnaie marchandise. Beaucoup d'objets ont été utilisés comme moyen de paiement, etc. Les perles, les pierres, les métaux. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier tout ça. Et ça, c'est intéressant de raconter tout ça aux enfants pour qu'ils prennent conscience de la valeur. Effectivement, vous avez première étape. Esther, alors je ne sais pas, est-ce qu'un jour, vos enfants sont petits, mais...
Oui.
S'il y avait un âge, les unes les autres, à quel âge faut-il commencer à donner de l'argent de poche? Est-ce que 7 ans, l'âge de raison, est une bonne idée? On demandera à Cécile Bicard justement ce qu'elle en pense.
Moi, ma fille, elle a bientôt 6 ans et elle est déjà en fait en train de se poser la question de l'argent parce que quand elle, je ne sais pas plus tard que ce week-end, elle avait essuyé quelque chose par terre et elle me demandait en fait des sous en échange.
C'est drôle.
Et je lui dis, mais pour en faire quoi? Elle me dit, mais pour m'acheter des bonbons. Et c'est super parce que du coup, j'aime bien l'idée qu'elle a un besoin, en fait, et elle essaye justement de répondre à ce besoin-là.
Ouais.
Alors, comme on disait, l'argent est un moyen. Mais, alors, je ne sais pas si
vous
c'est
allez
mon
faire
côté
quoi
un peu commercial, en fait. Alors, il y a eu 2 ans, elle avait une tirelire. Et donc, on parlait de la manipulation.
Il y a deux ans,
en fait, quand elle avait 3 ans, on lui a offert une tirelire, qui s'est cassée depuis. Et donc, elle mettait des sous dedans au fur et à mesure. Et puis, quand la tirelire, en fait, est grande, l'idée, c'est de pouvoir s'offrir quelque chose en toute liberté.
Alors, Cécile Vicary, c'est une bonne idée. Dès l'âge de 3 ans, qu'est-ce que vous nous avez pas encore dit à quel âge il faut conseillez-vous de l'argent de poche, la tirelire à 3 ans, ça, c'est une bonne idée?
Alors, moi, j'ai 2 enfants, en fait, qui ont maintenant 10 et 8, mais qui avaient à peu près, 7 et 5 quand j'ai écrit mon projet de livre pour enfants, parce que justement, des questions arrivaient à ce moment-là. Et en fait, je pense que ce qui peut servir au départ, c'est l'argent qu'ils reçoivent pour les dents de lait. La petite souris qui leur amène des pièces, ça constitue leur premier trésor, en fait, leur premier petit butin.
Ouais, c'est ce que j'ai eu, on rappelle de ça.
Et à partir de ça, en fait, on remplit la tirelire, alors progressivement, mais c'est vrai que ça leur donne leur première expérience avec l'argent. Et c'est pour ça que dans mon livre, en fait, j'ai utilisé la petite souris comme étant le guide spirituel de la petite souris qui trouve un trésor pour essayer de naviguer un peu les différentes options. Et je pense qu'en effet, à partir de là, même quand ils en ont qu'un petit peu, c'est justement à ce moment-là qu'on peut commencer à se dire, on peut parler des options, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors bien sûr, il y a dépenser, c'est la première chose qui va leur passer par l'esprit, mais on leur parle aussi très vite d'épargner. Ça, je pense que la plupart des parents, dans le concept de l'argent de poche, c'est assez binaire, c'est dépenser ou épargner. Mais je pense qu'assez tôt, on doit aussi leur parler d'investir et de donner. Comme ça, ils ont toute la panoplie d'options qui est déjà ancrée dans leur conscience pour savoir que plus tard, ils auront toutes ces options.
Faut-il donner de l'argent de poche à ses enfants? Si vous le permettez, les enfants sages, ceux qui ne demandent rien, ou presque, Guy Béard, en tout cas, à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Les enfants sages vont en voyage tous les jeudis dans les livres d'images. Ils s'aventurent dans les gravures autant que dans les pots de confiture. Il n'y a pas d'âge pour l'équipage. Les parents suivent leur vagabondage. Père sévère, mère si fière,
où se faufilent les crocodiles. Les voici tous livrés à domicile, ou dans les criques des Amériques, on cherche encore les trésors chimériques. Les corsaires sont nécessaires autant que les gâteaux d'anniversaire. L'Ouest est sauvage, à chaque page on se bat proprement sans bavardage. Quand il s'évade loin des ruades, le shérif goûte un peu de marmelade. Les demoiselles qui sont plus frêles aiment plutôt les récits en dentelle. Les héroïnes de la divine comtesse de Ségur, née Rostopchine. Les enfants sages vont en voyage tous les jeudis dans les livres d'images. Ils s'aventurent dans les gravures autant que dans les pots de confiture.
Voilà pour les enfants sages sur Radio Notre-Dame RCF. Faut-il donner de l'argent de poche à ses enfants ? Vaste question que je pose à mes quatre invités, Cécile Bicari, Marie-Audrey Boisard, Valérie Lyon et Esther Ribaud. Alors, je ne sais plus où on peut s'arrêter, je suis un peu perdue. C'est sur l'âge. Il y a tellement de choses à dire. Mm. Mais c'est vrai que, voilà, on disait tirelire 3 ans, 7 ans peut-être pour l'argent régulier, donner régulièrement. C'est une question que je vous pose les unes les autres. Valérie Lyon, vous conseillez quoi ?
Alors, déjà, donner les chiffres de la réalité. Donc nous, on a fait un sondage avec l'Institut CSA et le magazine Julie sur l'argent de poche des ados. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les ados de 10 à 15 ans en France, la moitié reçoivent de l'argent de poche. Donc on voit que c'est quand même...
La moitié
reçoivent de l'argent de poche, d'après notre sondage.
Donc c'est
sondage.
Pas très à la mode.
Donc
hein.
C'est pas... Bah, en tout non. cas, c'est très partagé. En tout cas,
c'est très partagé.
Hein. Donc un ado sur deux reçoit de l'argent de poche. Généralement, entre 13 et 15 ans, ils vont avoir une moyenne de 42 euros par mois, hein, ce qui est quand même beaucoup. Mais j'attire votre attention sur le fait que les jeunes filles reçoivent de l'argent plus tardivement que les jeunes garçons.
Tiens,
et elles en reçoivent moins. C'est-à-dire qu'elles, elles ont en moyenne plutôt 38 euros, alors que les garçons ont plutôt 44 euros.
C'est hallucinant.
Et les garçons, on commence plutôt à leur donner de l'argent entre 10 et 12, et les filles un petit peu après. Donc, à travers l'argent de poche, se reproduisent aussi des stéréotypes du rapport à l'argent et de la façon dont on estime. Les filles, par exemple, on leur fait davantage de cadeaux. On a tendance à faire des cadeaux et à donner de l'argent aux garçons. Mais en donnant des cadeaux, vous n'aidez pas à éduquer à l'argent. Oui. Alors qu'en donnant de l'argent, après contrepartie ou pas, c'est à discuter, vous éduquez à la gestion d'un budget. Et je réagis sur ce que disait Cécile par rapport à l'épargne, parce que je ne sais pas en Suisse, mais en France, nous sommes, nous, Français, de très grands épargnants. Oui. Et en fait, les enfants reproduisent en fait le comportement des parents. C'est-à-dire que nous, notre sondage a montré que 55% des ados épargnent l'argent de poche. Donc en fait, ils font comme leurs parents, ils thésaurisent. Voilà. Donc c'est des comportements qui se reproduisent. Ouais. Donc certains, après chacun met, c'est bien d'épargner. C'est bien parfois bien, de savoir dépenser aussi. Oui. Et je termine sur une chose, sur les dépenses, parce que Cécile a parlé de épargner, investir et puis savoir donner aussi, très important. Eh bien, dans notre sondage où on a posé les questions sur les différences de comportement entre les garçons et les filles, donc tous, le premier budget, c'est la nourriture, les boissons, etc. Les filles, en deux, c'est les vêtements, et en trois, c'est les cadeaux pour les proches.
Waouh !
Au même niveau que le maquillage, d'accord ? Les garçons, les cadeaux pour les proches, ça arrive,
très loin.
Alors après, vous ne vous étonnez pas que plus tard, dans un foyer, c'est la maman qui s'occupe des cadeaux.
Alors ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Autre sujet en quête de sens, mesdames, je vais une toute
petite parenthèse, puisque vous me mettez un boulevard, si vous... voilà, Valérie Lyon. Il paraît qu'aujourd'hui, l'éducation financière des femmes est plus que vitale, étant donné que c'est elles qui remplissent le frigo et qui investissent moins, effectivement, dans des grands, dans les assurances-vie, etc. L'homme s'occupe de tout, et puis la femme, finalement, elle thésaurise rien du tout. Enfin, elle ne perçoit au bout du compte, quoi. Elle remplit le frigo, mais son portefeuille se vide. Mais si je comprends bien, tout ça commence dès l'enfance.
Mais c'est ça. D'où
rien à faire.
Non, mais ça commence dès l'enfance, et d'où l'importance de cette éducation économique et financière, notamment pour les petites filles, pour les petits garçons aussi. Mais en fait, les petits garçons sont exposés plutôt à l'argent. Donc, ils commencent leur éducation quelque part avant les filles. Et donc, il y a un désavantage qui commence à s'installer, et effectivement, qu'on retrouve plus tard, où en fait, les femmes sont moins en mesure de se constituer un patrimoine, parce que leur argent va plutôt dans les dépenses du foyer, aussi parce qu'elles gagnent moins, les inégalités de salaire, etc. Ouais. Et je rebondirai quand même sur une chose où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cécile, qui est en ligne, parce que sur les choses qu'on fait dans le foyer, mais les femmes, le travail gratuit des femmes au foyer, ça vous dit quelque chose?
Non.
Donc peut-être que c'est intéressant de valoriser quand même le travail dans le foyer.
Cécile, petite parenthèse.
Oui, absolument. Oui, de le valoriser, c'est absolument clair. Ce qui est important aussi, c'est que ce travail non rémunéré, il soit partagé de manière égale entre la femme et l'homme au foyer. C'est surtout ça aussi qui fait partie de l'éducation financière ou de l'éducation tout court. C'est de montrer que...
Qu'il y ait des services rendus et que les enfants le voient, en fait. C'est ça que vous voulez dire, des services gratuits dans le foyer, du côté de part et d'autre, quoi. Et que ça donne le bon exemple aux enfants.
Alors que ce soit faire les courses, ranger, faire le lave-vaisselle, plier les vêtements, c'est tout aussi autant le rôle du papa que de la maman, comme c'est tout autant le rôle d'un petit garçon de ranger sa chambre que d'une petite fille. Ouais. Donc on ne devrait pas forcément... Je pense qu'en effet, ce que vous avez dit très justement avec les statistiques, c'est que inconsciemment, on reproduit les parents reproduisent des stéréotypes, et c'est là que ça se joue. C'est pas peut-être pas voulu, c'est pas conscient, mais on continue, on réplique ces stéréotypes et ces rôles.
La petite fille va être amenée à bien ranger sa chambre, le petit garçon le laisse, le pauvre, il sait pas faire. Enfin, ça reste encore.
Mais
en revanche,
quand il lave la voiture, on lui donne de l'argent.
Et ouais, c'est hallucinant, ça, la peau dure cette affaire. Maillot de rêve, vous situez comment là-dedans?
Sur ce point, je voudrais partager une expérience avec vous intéressante que j'ai faite, parce que j'ai eu l'occasion de faire des ateliers dans les écoles avec des groupes d'enfants petits, on va dire des 8-9 ans, et aussi avec des ados. Et c'est très intéressant de voir les comparaisons de genre entre ces différents âges, parce que sur l'exercice d'utiliser leur argent, j'avais donné à des groupes de l'argent à partager entre ces quatre options, dépenser, épargner, investir... et données. Oui. Pour les petits, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Ils répartissent à peu près entre les quatre blocs. Pour les ados, les filles, comme vous le disiez très justement, ont tendance à mettre beaucoup plus sur la case épargner et n'investissent pas. Alors que les garçons, tout de suite, veulent investir. Wow. Et quand on leur pose la question de savoir dans quoi ils veulent investir, ils ne savent pas trop. Ils nous parlent du Bitcoin, mais bon, ça leur parle. Alors que les filles, elles disent, nous, on ne comprend pas trop, donc on n'ose pas, on pense que c'est risqué. Et donc, on voit que dès qu'ils arrivent à l'adolescence, ces stéréotypes sont vraiment commencés à être très, très ancrés, ce qui est très frappant, parce qu'en fait, on sait aussi dans le domaine de l'investissement que les filles ont tendance à être meilleures en investissement, d'avoir des meilleures performances, parce qu'elles sont plus disciplinées, elles sont plus rigoureuses, elles prennent justement un peu moins de risques. Mais elles n'osent pas, elles n'ont pas confiance. Donc c'est une histoire de confiance aussi qu'il faut rétablir.
Maria de Boisard, est-ce que ça vous inspire tout
confiance
ça? C'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Moi, je suis très surprise et pas étonnée. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire?
C'est confiance et aussi compétence. C'est de savoir faire, parce que quand même, dans un couple, on ne peut pas être expert de tout. Donc on se partage les charges. Et souvent, on est en période d'impôt, puisque moi, ma vie précédente, c'était gestionnaire de patrimoine quand même.
Ne l'oublions pas.
Et souvent, c'était l'homme qui faisait les impôts. La femme, ça ne la concernait pas du tout. Elle comprenait rien. Donc déjà, c'est l'école. Et comme on disait, c'est que faut que ça soit du dialogue à la maison, que l'argent, il est là, il existe, il fait partie du foyer. C'est une ressource auquel, on utilise. Et les deux parents, papa, maman, homme, femme, utilisent cet argent, produisent aussi cet argent. Pas obligatoirement par du travail, mais aussi en faisant du bénévolat, des dons, etc. Et comment après c'est perçu par l'enfant? C'est ça qui est important. C'est... Et puis après, il y a aussi la notion de l'école qui est peut-être a son rôle à jouer dans l'éducation financière. Et peut-être des petits, c'est avoir trois tirelires, comme on disait, et vraiment bien distinguer. Eh bien oui, on a notre salaire. Nous, on assure un compte, mais après, on a bien un livret A, de l'épargne, des assurances vie, le crédit à payer. Il y a bien trois poches différentes. La poche, et puis vacances, bien sûr, il ne faut pas l'oublier aussi, ça.
Parce que c'est transmettre la rétention. Alors, je suis un peu violente, pardon pour ce terme brutal. Mais en gros, voilà, les parents, il y a des parents dépensiers, il y a des parents radins, ok ? Alors, personne ne se sent visé, je ne mentionne personne, mais voilà, c'est comme ça. L'humanité est ainsi faite, Esther Ribot. Je ne parle pas de vous en parents radins, mais vous voyez, qui disent qu'ils veulent tout miser du côté de... Dans la transmission, j'entends, de mettre de côté, économiser, on est trop pauvre pour, on n'a pas assez d'argent pour, alors que ce n'est pas vrai, mais on sait qu'ils ont peur. Donc, il y a comme des petits écureuils, comme l'évoquait Valérie Lyon tout à l'heure. Ça va donner quoi, ça, comme type d'enfant ? C'est compliqué, je trouve, voilà, en fonction de son tempérament, voilà, il faut aller sortir un peu de tes zones de confort et puis équilibrer un petit peu les choses, quoi, parce que c'est pas...
Ça va nous mener où ? Surtout que l'épigénétique, en fait, a montré aussi que, finalement, on héritait, en fait, des comportements des générations qui nous ont précédés. Donc, du coup, je dis, c'est pas automatique, mais en tout cas, on est biologiquement influencé dans nos hormones par, en fait, la relation aux émotions. Typiquement, c'était aussi beaucoup plus démontré pendant les personnes qui ont vécu la Shoah et comment les descendants se sont comportés. Donc, pour revenir à ce que tu disais, en fait, à partir du moment où on en prend conscience, où on prend conscience que notre relation à l'argent, elle est un peu... anormal, il faut regarder pourquoi. Moi, j'ai ma belle-mère, elle va se reconnaître en fait, mais qui est née en fait pendant la guerre.
Elle est maintenant dans l'émission.
Elle est née pendant la guerre, donc elle est née en 39.
Ouais.
Sa relation à l'argent n'est pas la même en fait avec moi aujourd'hui.
Totalement.
Et elle est beaucoup plus dans l'économie.
L'économie.
Le pain, la valeur du pain, la valeur de tout ce qu'on achète, il faut que ça dure.
Ouais.
Ma fille s'assoit encore dans la chaise qui a 80 ans, en fait, concrètement. Et c'est ça, pour moi, qui est plus important. Comment faire durer les choses ? Il faut savoir effectivement qu'elles coûtent, que voilà ce qui coûte, mais comment on fait pour durer les choses ? On fait pour durer les choses. Et pour revenir sur où est-ce qu'on va, il y a aussi, on parlait de l'enfance, dans l'enfance, les filières aujourd'hui d'orientation. Pour les filles, on a beaucoup plus de filles qui vont dans les filières littéraires.
Ça commence un petit peu à évoluer.
Ça commence un petit peu à évoluer. Par contre, moi, je suis ingénieure en fait de formation. On devait être trois sur une promotion de 35-40 personnes. Et ça se retrouve dans les entreprises aujourd'hui où on se rend compte en fait que les femmes n'arrivent pas à avancer beaucoup plus rapidement dans des postes de direction, aussi parce que en fait celles qui évoluent plus rapidement, je crois que c'est un livre dans lequel je lisais, ce sont celles qui ont pris des postes de directrice financière. Qui ont géré en fait l'argent, qui ont géré en fait le rapport à la performance opérationnelle et financière. Et donc ça commence beaucoup plus tôt. Donc comment emmener les filles à aller vers des filières,
à s'intéresser en fait
aux
l'argent
filières.
N'est pas que ça, non.
Derrière l'argent, il y a la compréhension du monde. Et je pense même que moi j'ai pas eu cette formation là, je suis plutôt tech, travailler dans l'électronique, l'électro-technique, alors que mon mari qui a fait une formation Éco, Dauphine, oui, certes, gère les impôts et fait les déclarations parce que ça paraît... Je pourrais très bien le faire, mais en fait, comme je ne sais plus qui c'est qui disait, c'est comme une complexité, quoi. Enfin, je peux le faire, mais c'est comme si l'effort que ça va me demander, en fait, ça me paraît énorme. Donc, du coup, je lui dis, tu t'en occupes. En revanche, dans la répartition de où va, il va me tuer s'il entend ça.
Où va l'argent ?
Le fichier Excel qui permet de répartir, en fait, tous les mois, le budget, vacances, courses, alimentation, etc. Naturellement, c'est moi qui l'ai mise en place, en fait.
D'accord.
Alors que, il a un rapport différent. Donc, c'est toujours intéressant de se regarder un petit peu de l'extérieur en disant, OK. Comment on gère notre rapport à l'argent ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Peut-être qu'on est influencé par l'éducation de nos parents qui ont fait...
En prendre conscience.
Et qu'est-ce qu'on a envie, en fait, de transmettre et puis travailler dessus ? Donc ouais. c'est pas...
Attention les parents qui nous écoutez, ouvrez bien vos oreilles, votre conscience. Billie Holiday, God Bless the Child, à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone and spending it, rich relations give, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone and spend, rich relations give, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own. Yes, he's got his own.
Sur Radio Notre-Dame, faut-il donner de l'argent de poche à ses enfants? Question posée à mes quatre invités du jour. Cécile Bicari, qui vient de publier « C'est ton argent, que vas-tu en faire ?» chez Helvétique. Toutes les questions voilà, à étudier, à échanger, à partager en famille à l'heure du déjeuner, mais pas que, je ne sais pas pourquoi je pense au déjeuner, parce que j'ai faim. La monnaie marchandise, qui contrôlait l'histoire de la monnaie, de l'argent, qui contrôlait les monnaies marchandises, la monnaie métallique, et si on fabriquait plus d'argent, l'argent papier, l'apparition des banques, tout ça, la fin de l'étalon or, on peut tout doucement infuser ça dans les conversations, ça, Sylvie Carry. Voilà, dès le berceau, si je puis dire, c'est un petit peu ça, finalement, que vous suggérez aux parents, aux frères et sœurs, quand ils sont un petit peu, un peu plus grands que les petits, voilà, dans les familles, on n'en a pas parlé, mais dans les fratries, quand les petits voient que les uns ont de l'argent de poche, les grands reçoivent de l'argent de poche, ils peuvent aussi poser des questions. Donc, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Aux plus petits, quoi, qui ont 2-3 ans et qui voient ça avec des yeux ronds comme des billes, qui voient des grosses pièces de 2 euros, magnifiques. Et ça s'éduque, tout ça, voilà, faut échanger très, très simplement, finalement.
Oui, bah, les supports de livres, pour ça, c'est toujours bien, peut-être pas pour le déjeuner, mais peut-être pour les histoires du soir avec les parents, qui aiment bien encore, les enfants aiment bien à cet âge-là encore de lire avec leurs parents. Donc, du coup, ça un double objectif, ça permet aussi un peu justement, comme on disait, aux parents aussi de
se dédramatiser,
de s'éduquer un peu sur certaines questions, parce qu'ils n'ont peut-être pas conscience des croyances qui leur ont été transmises eux-mêmes. Ils ont besoin aussi peut-être un peu de revoir certains concepts pour avoir une vision plus large. Alors la partie, l'histoire de l'argent, je dirais que c'est la moins intéressante, c'est seulement une des parties du livre. La partie la plus intéressante sûrement, c'est l'argent dans nos vies.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quels sont nos choix, nos options? Et puis, pour moi, ce qui était important, c'était de parler de ces quatre options, dépenser, épargner, donner, investir, mais surtout aussi de parler de finances durables, c'est-à-dire de savoir que derrière ces choix, eh ben, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser, sur qu'est-ce qui va se passer avec l'argent, mais aussi comment ça nous impacte, nous, notre bonheur personnel, notre satisfaction personnelle, notre bien-être, et puis comment ça impacte les autres, le reste du monde, la planète, etc.
Ouais.
Et c'est surtout en fait cette petite boussole interne qu'on a besoin de développer, et c'est pour ça que le livre cherche à donner ces concepts clés assez tôt.
Parce qu'on entend des choses pas possibles, que là, mon père, il a une grosse voiture. Le cliché, on y va à fond là. Ma mère, je sais pas quoi. Enfin, c'est vrai que très vite, on a vraiment l'impression que le système des valeurs. Les systèmes de valeurs s'affrontent entre les enfants Valérie Lyon.
Tout à fait, mais même les enfants, par exemple, nous, on est à Paris, très tôt à l'école primaire, ils savent, par exemple, dans quelle tranche ils sont pour le prix de la cantine. Et ils en discutent entre eux. Ah, t'es tranche 5, 6, mais bien sûr. C'est la vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants petits n'ont pas de tabou par rapport à l'argent.
D'accord.
Le tabou, il s'installe ensuite. Et c'est pour ça qu'il faut en parler relativement tôt.
Mais c'est quand même.
D'accord.
Ils se comparent assez vite, non? C'est une question.
Voilà, mais ils en parlent entre eux, ils se comparent, et effectivement. Mais surtout, ils ont des questions qui viennent naturellement. Nous, on l'a vu, on a fait un podcast qui s'appelle « Tout sur les sous », qui est donc sur le site de Vive Média, vivemedia.fr, où on a discuté avec des enfants de 7 à 10 ans, et on est parti des questions des enfants. Pour parler de revenus, de budget, d'inflation, d'épargne, justement. Et ils ont des questions qui sont... assez naturelles. Par exemple, pourquoi quand tu pars en vacances, par exemple, quand les parents sont salariés, tu gagnes encore de l'argent? Oui, parce qu'il y a ce qui s'appelle les congés payés. C'est un progrès social. Voilà, ça permet d'expliquer. Donc, ils ont des observations aussi très fines, les enfants, sur le monde qui les entoure. Certes, ils se comparent, mais ils observent aussi, par exemple, la pauvreté. Ils voient la pauvreté. Et la pauvreté les questionne beaucoup.
Ouais.
Pourquoi il y a des pauvres et des riches?
La réaction des parents, là, pour le coup. Mario Dreyfus.
Et moi, je réagis beaucoup aussi sur la notion de frustration. C'est que quand les parents disent « Non, en fait, tu ne vas pas acheter tel jouet, etc. » Ils disent « Tu n'as pas d'argent ?» Si, j'ai de l'argent, mais c'est cette notion aussi de plaisir. Est-ce que c'est un plaisir immédiat? Ou dans cette société de consommation, ultra de consommation, on peut tout acheter, avoir tout de suite? Ou ce plaisir de tiens, je vais me faire plaisir et je vais acheter au moment de Noël, des anniversaires, des dates aussi symboliques pour remettre un peu du sens dans cette valeur financière, cadeau, récompense.
Ouais, et puis on n'a pas parlé des compensations malheureuses, c'est-à-dire je pense à beaucoup de parents sans du tout les juger du tout, mais qui compensent. C'est plus fort qu'eux, une absence, le fait qu'ils font souffrir leurs enfants, aller avec des chèques de 200 euros.
Exactement,
et c'est réglé.
Les cadeaux.
Mais non, quoi. Malheureusement,
au lieu d'être ensemble et de jouer ensemble, viens, je t'achète un cadeau et moi je continue avec mon téléphone, mon PC.
Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, on a parlé de la notion de valeur, de l'intérêt de l'argent de poche, mais là, quand c'est trop, quand c'est complètement excessif, là aussi, on n'a plus aucune notion de l'argent. Alors moi, je voudrais quand même, en feuilletant votre livre, j'ai appris quelque chose, hein, que le verbe épargner, les amis, vient de l'ancien français espargner. Cela veut dire économiser, mettre une chose de côté, l'utiliser avec modération. Il n'y a pas que l'argent qu'on économise, dites-vous. On peut aussi dire économiser ses forces. C'est très bien dit. Cécile Bicari, voilà, c'est une belle idée. Moi, j'aurais bien aimé tomber sur votre livre, vous voyez, quand j'avais 7-8 ans et qu'on me raconte tout ça, pourquoi mettre ses économies à la banque. Je voyais maman aller régulièrement à la banque. Je sais pas, je me rappelle de ça. C'est très marqué. Enfin, elle y allait beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais... Écoute, rendez-vous à la banque. Je me rappelle de l'odeur de la banque. Ça, c'est des souvenirs qui restent. Mais vous voyez, vous dites pourquoi on met. Et c'est vrai que c'est très intéressant de savoir, d'être curieux quand on a envie de poser. Et d'être simple, en fait, hein, quand on est parent. Ben voilà, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à la banque, Esther? Je sais pas si vous racontez ça à vos enfants, mais. C'est vrai que c'est une vraie éducation à faire, quoi.
Ouais, et puis quand je t'écoute, en fait, j'ai envie de réagir sur deux choses. La première, c'est l'importance de la communication. En fait, le dénominateur commun dans tout ce qu'on entend dire, c'est le temps qu'il faut prendre pour pouvoir en parler. Et dans nos vies, à 200, à 300 à l'heure, alors c'est super, on veut éduquer, on veut transmettre des valeurs, on veut... mais tout en gardant, en fait, la même vitesse.
Ouais.
Et du coup, ce qui est vraiment important et ce qui va permettre à l'enfant de percevoir aussi cette valeur financière, c'est le temps qu'on prend, je ne sais pas, le soir, peut-être, je sais pas, avant le coucher ou à table, pour poser des questions, pour pouvoir transmettre justement ces idées-là. Voilà, papa a travaillé, maman a travaillé aujourd'hui. Bah, du coup, c'était la notion d'effort, en fait, ce n'était pas simple. Mais au moins, je sais pourquoi je le fais. Et pour moi, c'est vraiment important, cette notion de communication. On peut dire beaucoup de choses. Et surtout, l'enfant peut transmettre en retour ce qu'il observe.
Ouais.
Je me rappelle de ma fille, avec qui j'étais partie pour la première fois en vacances. Donc, on avait pris le train, ensuite, après le RER et puis après le train, et elle se rappelle de ce monsieur qui était là pauvre, du coup qui était qui demandait des sous. Je dis, bah oui, en fait il a pas de toit, donc c'est important de pouvoir l'aider. Est-ce que tu as envie de l'aider? Qu'est-ce que du coup tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et donc du coup elle lui donnait des sous. En revanche, quand là en ce moment il y a la campagne de la Croix-Rouge au niveau des feux, il nous demande des sous. Du coup, quand elle a donné ses sous, elle était pas très bien, en fait. Du coup, on a dû lui expliquer que c'est pour les enfants, en fait, qui étaient pas bien, qui étaient malades. Est-ce qu'elle a envie de contribuer? En fait, l'idée n'est pas de forcer, pour moi, c'est d'aller chercher cette liberté, en fait, de pouvoir donner, parce que du coup, on y trouve un plaisir et parce que ça nous fait du bien.
D'accord. Alors moi, j'ai une question avant de terminer l'émission. Vous inquiétez pas, c'est pas encore terminé, mesdames. Mais le temps passe et on n'a toujours pas donné de choses un peu... Je sais que vous n'aimez pas faire ça forcément, mais nos auditeurs attendent quand même qu'on leur donne quelques pistes. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je ne dis pas qu'il faut, mais que proposez-vous? J'ai envie de commencer par Valérie Lyon, ensuite Cécile Bicari. Qu'est-ce que vous conseillez de donner? Combien et à partir de quel âge? À 7 ans, on donne combien? Et par semaine, par mois, comment on fait?
Alors, si on commence à 7 ans, moi, je dirais qu'il vaut mieux donner par semaine, parce que les enfants n'ont pas encore une... ils sont dans le présent, en fait. Donc, si on commence à 7 ans, ce qui est assez jeune, on donne plutôt par semaine. Et après, il faut aussi dire, quand on donne pourquoi, en fait. Je te donne cet argent, par exemple, acheter des bonbons à partager avec tes copines, si c'est...
On suggère.
On lui dit que c'est... évidemment, le parent est là pour subvenir aux besoins essentiels de l'enfant. Donc, il faut quand même que l'enfant soit sécurisé sur le fait que ses parents vont assurer ses besoins. Donc, l'argent sert à du petit plus, au petit plaisir, ou les cartes qu'il collectionne, ou voilà. Donc, après...
Est-ce qu'il faut automatiser? C'est ça ma question aussi.
Alors, automatiser, si on commence à donner de l'argent de poche, il vaut mieux que ce soit régulier quand même. Sinon, ça n'a pas trop de sens, d'accord, me semble-t-il.
Cécile Bicari, pardon, excusez-moi. Fini, Valérie.
Et après,
excuse-moi.
À partir du collège, on peut donner par mois.
D'accord.
Voilà, plutôt.
Et combien?
Et pour revenir à ce qu'on disait sur la matérialité, je pense qu'au début, il vaut mieux donner en espèce.
Très bien.
Même si plus tard, quand ils deviennent adolescents, d'ailleurs, notre sondage a montré que certains passent au virement bancaire, mais les espèces restent quand même privilégiées. Et je pense que c'est bien pour la matérialité de l'argent.
Et on donne combien, par exemple, les ados, par mois?
C'est ce que je disais. Alors nous, d'après notre sondage, alors nous, c'est vrai qu'on a été surpris d'un montant qui était assez élevé, hein, la moyenne de 42 euros. Alors on est sur une tranche 10-15 ans, ce qui veut dire que probablement les 15 ans ont plutôt 40 et puis les 10 ans vont avoir moins. Je dirais après, ça c'est vraiment un rapport dans la famille, par rapport d'abord à ce que gagnent les parents. C'est quand même très important.
Bah oui.
Et on en revient à la question du salaire. Je peux te donner tel montant d'argent de poche parce que voilà, nous, on gagne tant. Et si c'est pour tes petits plaisirs supplémentaires, on n'est pas obligé. Il y a une pression sociale sur l'argent de poche. Donc, il faut être capable aussi d'avoir sa propre vision par rapport à la pression sociale, j'ai envie de dire, de la cour d'école ou du collège, de votre enfant qui rentre en disant mes copines ont tant, mes copines ont une carte bancaire à 13 ans, pourquoi moi j'en ai pas une, etc. Donc il faut se faire son
pignon à soi. Les armer aussi, quoi. Cécile Bicarry, qu'est-ce que vous répondez en essayant d'être le plus concrète possible ?
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être
d'accord.
dit, et donc je me prononcerai pas sur ni quand ni combien il faut donner. Je pense que c'est vraiment tellement personnel.
D'accord.
Ça dépend tellement des circonstances des parents et de l'enfant, de où est-ce que l'enfant en est dans son parcours d'autonomie. Effectivement. Par contre, je suis d'accord aussi, j'insisterai sur le fait que donner en espèces, c'est très important parce que l'argent dématérialisé, c'est quelque chose de magique et donc ils ne comprennent pas, c'est trop près. Donc il faut que ce soit des billets, des pièces. S'ils le voient circuler, ça fait partie vraiment de l'expérience. Et puis, je dirais que dès le début, idéalement, créer 4 tirelires, dépenser, épargner, investir, donner. Comme ça, ils expérimentent avec tous ces concepts le plus tôt possible.
Ouais.
Et les accompagner régulièrement, c'est-à-dire en parler régulièrement, pas juste le donner régulièrement. Discuter. Qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as fait comme erreur? Etc.
Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est les questions qu'il y a derrière, finalement. On vous est tout le temps, toutes les quatre.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça.
Ces questions.
C'est vraiment, il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. Je crois que c'est le mot de la fin, sinon je vais me rouspéter derrière cette vie. En tout cas, bravo, Cécile Bicarry. Je me permets de vous féliciter parce que vous posez vraiment des questions typiquement quêteuses. Comment sait-on si on gagne assez d'argent? Comment sait-on si on est riche? L'argent et le bonheur? Voilà des vraies questions à évoquer dans Quête de sens et à aborder en famille. Donc, j'invite les auditeurs. Enfin, je me permets de votre part de les inviter à toutes les quatre à en parler avec vos enfants. Valérie Lyon, merci aussi beaucoup pour tout ce que vous faites du côté de Vive Média. Merci. Hein. Je m'appelle Osons l'oseille. Et puis,
Osons l'oseille pour les grands,
pour les
grands. Sur les sous pour les petits.
Voilà, pour les petits, voilà. C'est merveilleux. Je rappelle que vous faites partie du groupe de Bayard. En tout cas, Vive Média en fait partie. Vous qui êtes journaliste et rédactrice en chef, merci d'être venue.
Merci de votre invitation.
Merci Esther Ribot, présidente d'un club de femmes dirigeantes pour le leadership et la résilience. Merci Esther d'être revenue. Marie-Audrey Boisard et votre podcast de la femme à la mère, qui est coach parentale, et votre cercle de femmes que vous animez. Merci Marie-Audrey.
Merci beaucoup.
J'ai oublié
Merci.
Personne. Et Cécile Bicarry, votre livre, c'est ton argent. Que vas-tu en faire chez Helvétique? Merci beaucoup, les amis. Merci Cécile en ligne. Merci à tous et bonne soirée.
Merci.